Donc, merci à tous d'être revenus après le déjeuner. Donc, nous allons commencer la première séance de l'après-midi. Alors, sans tarder, je vais donner tout de suite la parole à Jacques Toubon, qui est défenseur des droits. Il va nous parler de ce qu'est l'institution du défenseur des droits et puis nous dire dans quelles circonstances il a été amené à prendre position sur des enfants qui sont nés de GPA. Monsieur Toubon, la parole est...
Monsieur le Président, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bon après-midi à toutes et à tous. Ce genre d'occasion qui m'est offerte par l'organisation de ce colloque scientifique et notamment sous les auspices de l'INED et de toutes les personnes responsables universitaires de laboratoires de recherche qui l'ont organisé, ce genre d'occasion est naturellement pour moi, défenseur des droits, extrêmement favorable afin non seulement de vous dire simplement notre reconnaissance, mais surtout de voir comment ce qui est aujourd'hui une évidence, et j'ai compris que ce matin, vous aviez mis en lumière à travers les expériences de pays très différents toutes l'hétérogénéité des règles, des pratiques, des ressentis, je dirais, dans tous ces pays. Ceci me conforte naturellement, et c'est pour cela que je suis heureux de cette occasion qui m'est donnée, de pouvoir confronter en réalité ou renforcer ou entourer notre propre champ d'expertise pour croiser donc les analyses et les décisions que nous prenons avec d'autres personnes qui, de France ou de partout ailleurs, sont des sachants sur ce sujet et qui nous permettent ainsi, me permettent, comme défenseur des droits, de mieux appréhender cette réalité de la situation des personnes qui nous saisissent, nous, de réclamations, et d'envisager aussi, par ces échanges d'expériences, les éventuelles modifications législatives et réglementaires qui pourraient servir mieux les droits fondamentaux que nous sommes chargés de promouvoir en tant que défenseurs des droits, puisque, je le dis simplement pour répondre à l'invitation de Laurent Toulmont, le défenseur des droits, institution récente, 5 ans et demi d'existence, je suis le défenseur des droits depuis 2 ans et demi, la charge, selon la Constitution qui nous a créés, de protéger et de promouvoir les droits et les libertés fondamentales, et ceci dans 4 domaines, ou à travers 4 missions, les relations, la médiation entre les usagers et les services publics, en particulier les services sociaux, c'est le gros de notre travail, en nombre de réclamations, c'est-à-dire en gros 80% des 80 000, cette année ça sera plus, dossiers que nous traitons chaque année. Ensuite, la protection et la promotion des droits des enfants en vertu de la Convention internationale du droit des enfants du 20 novembre 1989, dont nous sommes le mécanisme de suivi en France en tant que défenseur des enfants. Le défenseur des droits est aussi défenseur des enfants. Et c'est à ce titre-là principalement que j'ai été impliqué dans la suite des questions concernant la suite juridique des questions concernant la GPA. Troisièmement, je suis en charge de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l'égalité, ce qui veut dire aussi, en quelque sorte, travailler sur l'égalité de l'accès aux droits, Et puis, quatrièmement, j'ai une mission de contrôle de la déontologie de la sécurité des forces de sécurité, ça veut dire la police, la gendarmerie, les polices municipales, les gardiens de prison. La loi m'a donné cette mission. Naturellement, c'est tout à fait en parallèle avec ce que fait la justice, par exemple, qui est amenée à traiter un certain nombre de comportements. Je prends un exemple. La semaine prochaine, il y a un procès à Bobigny à l'encontre de policiers qui ont utilisé des flashballs et qui ont blessé des personnes. Il y a une information judiciaire et ça aboutit au tribunal. Et moi, de mon côté, sur une telle affaire, je regarde si le comportement de ces personnes a été conforme aux règles de déontologie, c'est-à-dire la nécessité et la proportionnalité de l'intervention. Donc comportement professionnel et culpabilité pénale sont deux choses naturellement tout à fait différentes. Je le dis parce que souvent, il y a des confusions dans beaucoup de domaines. Donc, ce défenseur des droits, il est très heureux, pour les raisons que je viens de vous dire, de me retrouver ici. Ce que je voudrais dire, c'est que je partage tout à fait une expression qui a été employée ce matin par, je crois, le professeur Fulchiron, et qui qualifiait la gestation pour autrui de problème juridique global. En effet, le défenseur des droits, il est saisi de situations qui concernent des enfants qui sont nés en Ukraine, en Russie, au Canada, aux États-Unis, en Inde. Et je pense que la double qualification juridique et globale est effectivement parfaitement opportune. Notre action face à ce problème juridique global se situe naturellement, elle, dans le cadre d'un mandat national qui est inclus, comme je viens de le dire, à la fois dans la Constitution et dans notre loi organique, puisque une loi organique nous organise et fixe nos pouvoirs et nos compétences. Donc, nous n'apportons pas une solution globale en droit international, par définition, comme pourraient le faire des organismes régionaux, des cours, des conférences internationales, l'AE, le Conseil de l'Europe ou l'Organisation des Nations Unies. Et j'ai bien compris qu'il avait été question, en particulier ce matin, de l'idée qu'il faudrait quand même qu'il y ait à ce niveau international un certain nombre de principes communs minimum, si j'ose dire. Bon, mais ça, c'est certainement pas de notre compétence. Mais en revanche, apporter des solutions juridiques nationales pour régler les situations individuelles où nous sommes saisis. Dans l'ordre juridique français, nous mettons en œuvre donc la Constitution, nos engagements internationaux, et en particulier ceux que nous avons vis-à-vis de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, nos lois et la jurisprudence. Nous avons, face aux réclamations, devant les pratiques administratives qui mettent en cause un certain nombre de droits, et notamment ceux des enfants issus de gestation pour autrui, nous mettons en œuvre la législation française qui prévoit la prohibition de la gestation pour autrui en France. Mais de l'autre côté, je mets en œuvre mon mandat qui est de garantir les droits des réclamants et, en l'espèce, avant tout, les droits des enfants, c'est-à-dire l'intérêt supérieur de l'enfant. Je m'appuie sur les jurisprudences européennes et françaises, notamment celle de la CEDH, celle de la Cour de cassation et du Conseil d'État. Pour illustrer la manière dont les choses se sont passées et les positions que j'ai prises, nous avons traité une cinquantaine de réclamations qui recouvrent un échantillon assez représentatif du phénomène global de la gestation pour autrui, tant sur le plan de la sociologie des réclamants, ce sont des personnes qui sont hétérosexuelles, homosexuelles, en couple, seules ou séparées, que, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la géographie des lieux de naissance, Asie, Amérique du Nord, Europe de l'Est. Et Donc la problématique de ce colloque, cette vision internationale de cette question, est tout à fait retracée, en quelque sorte, se retrouve dans les réclamations que j'ai à traiter. Ce que je voudrais essayer de vous dire, c'est quels sont les trois types, en fait, d'interventions que j'ai pu faire en face de ces saisines. D'une part, du règlement amiable avec les services de l'État, dans un certain nombre de cas. D'autre part, des décisions portant recommandations au ministère de la Justice, qui est en cause dans cette affaire. Et d'autre part, le dépôt, troisième méthode, le dépôt d'observations juridiques auprès des juridictions. Vous savez que, en vertu de l'article 33 de notre loi organique, nous avons un pouvoir qui est quand même assez considérable, que j'ai utilisé cette année déjà à peu près 110 ou 120 fois, et qui consiste à présenter des observations à titre d'amicus curiae, non pas d'intervenant dans le procès, mais sur le bureau des juridictions qui sont saisies, et ça va du tribunal de sécurité sociale de base jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Il y avait d'abord les situations des enfants qui se voyaient refuser des certificats de nationalité française. C'est l'affaire de la circulaire Taubira. À l'exception de quelques situations locales, les enfants issus d'une gestation pour autrui à l'étranger sont désormais en mesure d'obtenir un certificat de nationalité, et les documents administratifs comme le passeport et la carte nationale d'identité. Et ça a été plutôt un travail amiable avec les administrations. Depuis juin 2014, c'est-à-dire les arrêts de la CEDH, Benson Labassé, je suis saisi naturellement de la situation des familles qui ont des difficultés pour faire transcrire dans les registres de l'état civil français l'acte de naissance légalement établi à l'étranger. Et c'est la suite directe des deux arrêts du 26 juin 2014 de la CEDH. La jurisprudence européenne a fait prévaloir très clairement l'intérêt supérieur de l'enfant. Son respect de la vie privée, identité, filiation, et la sécurité juridique. Et là-dessus, je veux dire quelque chose de très important, c'est que je dénonce toutes les tentatives qui existent, pas seulement en France, naturellement, vous le savez bien, mais aussi en France, de se démarquer la force des décisions des juridictions supranationales, en l'occurrence la CEDH, mais c'est pareil pour la Cour de justice de l'Union européenne qui met en œuvre aussi la Charte des droits fondamentaux. Je pense que nous devons le mettre en œuvre comme le fait, par exemple, et je le note, ce qui n'était pas évident, dans une ordonnance le 3 août 2015, le Conseil d'État qui a dit que, quel que soit le caractère illégal de la Convention, il convenait néanmoins de prévoir que la situation de l'enfant puisse être prise en compte. J'espère que nous continuerons et qu'il n'y aura pas des circonstances, notamment des circonstances politiques, dans lesquelles d'aucuns voudront nous persuader qu'il faut se défaire de ces entraves néfastes. Elles ne sont pas néfastes, elles sont à la base de ce que nous pouvons, dans notre pays encore, dans la plupart des circonstances, mettre en œuvre des droits fondamentaux, et en particulier, c'est un autre sujet, les droits fondamentaux des étrangers et des migrants. J'insiste là-dessus. Je ne vais pas, naturellement, développer ce qu'a dit la CEDH, mais simplement, pour ce qui nous concerne, nous avons bien pris en compte le fait que la CEDH avait dit la jurisprudence à l'époque en 14, donc la jurisprudence de 2013 de la Cour de cassation n'est pas conforme aux prescriptions de la Convention de sauvegarde, que les autorités françaises, à travers la Cour de cassation, avaient porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée des enfants, protégée par le fameux article 8. Et depuis, notre bataille, si je peux employer ce terme, c'est d'essayer de faire en sorte que les autorités françaises mettent en œuvre les décisions de la CEDH qui ont fait prévaloir l'intérêt supérieur de l'enfant. Parce que nous pensons qu'il ne faut pas ajouter une complexité sociale à une complexité juridique, parce qu'il faut que nous fassions respecter l'édifice juridique en matière de filiation, c'est ce que je le dis aussi, et que dans ces conditions, nous sommes face à... nous sommes en train d'appréhender, nous appréhendons les difficultés rencontrées par les parents d'enfants dont le statut juridique n'est pas fixé. Nous avons des dossiers de parents qui ne peuvent pas bénéficier des droits liés à la reconnaissance du statut juridique de l'enfant. Par exemple, certains réclamants ne peuvent pas avoir accès au congé parental en leur qualité d'agent public. C'est ça la réalité des réclamations que nous traitons. Ce n'est pas des choses qui sont hautement philosophiques. Elles sont de caractère extrêmement pratique. Mais la grande conquête, d'une certaine façon, de l'institution des défenseurs des droits par la Constitution, c'est que la relation entre les usagers et les services publics, de manière générale avec les autorités administratives, sont maintenant vues de la part des personnes qui sont concernées et en fonction de leurs droits fondamentaux. Ce n'est plus seulement d'essayer de réparer des mécaniques administratives ou juridiques qui ne sont pas bonnes. Et je crois que ça... c'est un grand progrès que nous avons fait, et en tout cas, nous l'avons appliqué dans ce sujet majeur. Donc, nous avons présenté, pour ce faire, des observations devant la Cour de cassation, et c'est comme ça que, vous le savez, la Cour de cassation a fait avancer sa jurisprudence en ce qui concerne la filiation biologique, qui est la seule qui a été expressément traitée dans les arrêts du 26 juin de la CEDH. Cette jurisprudence de la Cour de cassation est maintenant mise en œuvre. Le 8 novembre, il y a quelques jours, la Cour d'appel de Paris, après cassation, a admis la transcription de l'acte civil établi à l'étranger suite à une convention de GPA mentionnant le père biologique et la mère porteuse. Nous avons déposé des observations aussi devant le tribunal de Nantes sur le même sujet. Et j'ai aussi, ce sera la fin de mon intervention, qui me permettra d'ouvrir d'une certaine façon sur une perspective, j'ai aussi présenté un avis au Parlement à l'occasion de la mission qu'avait conduite en 2015 la sénatrice Catherine Tasca au sujet du droit de la PMA et des évolutions qu'il pouvait éventuellement subir. J'ai donc d'un côté aujourd'hui un travail d'essayer de faire exécuter les décisions, et je vais prochainement adresser des observations au service de l'exécution des arrêts du comité des ministres du Conseil de l'Europe à ce sujet. Je suis en train de les préparer. Je fais dans mon travail couramment, si j'ose dire, des observations devant les juridictions, et devant une certaine incohérence, Dijon vient de dire quelque chose, le parquet de Nantes a dit autre chose. Ma conclusion, c'est que pour moi, des solutions doivent être trouvées pour que les enfants nés de gestation pour autrui puissent, comme les autres enfants, faire établir et reconnaître juridiquement, dans l'ordre juridique français, leur filiation, et qu'ils puissent jouir d'une protection juridique rendant possible leur intégration au sein de leur famille. Et, bien entendu, s'agissant d'un sujet beaucoup plus vaste qui est l'inégalité devant l'application des lois de 1994 qui concernent la procréation médicalement assistée, j'ai été amené à dire que, de mon point de vue, il fallait que cette technique médicale puisse s'appliquer également à toutes les femmes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est un autre sujet, mais je pense que ça valait la peine simplement que je réitère devant vous cette position qui est fondée sur ce qui est l'alpha et l'oméga du travail du défenseur des droits. Essayez chaque fois que l'égalité n'est pas respectée de la rétablir, soit dans le cadre des lois qui existent, soit en les faisant évoluer.
Merci bien. Alors, bon, normalement, on a tous les orateurs qui parlent et on a une discussion à la fin de la séance. Je ne sais pas si vous pouvez rester jusqu'à 16 heures, parce que je sais que vous avez un agenda très tendu. Donc, alors, on va tout de suite passer à d'autres. On va poursuivre un peu les descriptions des expériences dans différents pays que nous avons commencé ce matin avec Sunita Reddy qui va nous parler des différentes situations qui se sont succédées en Inde, un panorama des changements, disons, des régulations et des pratiques en Inde. Et donc, je vous donne la parole tout de suite pour 15 minutes.
Okay, good afternoon, everybody. Thank you so much for inviting me here to share my research experiences with the August gathering here. I would be speaking on saga of surrogacy in India from commercialization, especially looking at commercial surrogacy to altruistic surrogacy. My work has been informed from my academic background of being medical anthropologist and then now teaching for the past 13 years in the Center of Social Medicine Community Health, which deals with public health. And a lot of my colleagues work on public health issues and more so from policy dimensions. And as an anthropologist, I was asked to unlearn when I started teaching public health, to forget about disciplinary conclaves and background and get into more of interdisciplinary research. And that's where I feel fortunate to have the strength of being an empirical researcher as an anthropologist and then teaching public health. For the past 12 years, I've learned a lot in terms of understanding empirical issues at ground realities and connecting it to macro and even meso factors. Coming from that background, what I would be today speaking on would be how surrogacy started in India and how it went to an extent of becoming completely a commercial enterprise and now the current policy which bans surrogacy for all commercial reasons. The journey, as I said, being working with different faculty, both anthropologists and public health professionals, widen my horizon, and that's where I want to look at surrogacy. Our research work comes from two places, one in South India, one of the cities called Hyderabad, where we undertook research on four clinics, speaking to surrogates, speaking to the clinicians, and also the middlemen, also called agents, and they're full-fledged agencies. So wide variety of key respondents whom we spoke to and then came up with a report, and that was actually commissioned by Ministry of Women and Child Development, central government. And later on, we also collaborated with two of our colleagues from Denmark who are medical doctors, tried to look at more of medical aspects of surrogacy in New Delhi, covering almost 21 clinics. So our sociological and anthropological study in South India gave us a lot of insights into the social, ethical, and also legal issues. Currently, as I said, I need to locate this research in public health perspective. Coming from public health background, we need to really understand the health services and health service systems within India. And that's where I want to draw your attention to the private sector, which has been there forever in India, but the forms have changed after what you call health sector reforms, post-liberalization. When you see that there has been a lot of push towards private sector and much more in terms of corporate care. That's called corporatization of medical care. But the moment I talk of private sector, it's not that homogeneous. It's quite a heterogeneous services which are provided, starting from one doctor clinic to multi-speciality corporate hospitals with all the specialties and the doctors who are there in these hospitals. Now, there's been, as I said, a push towards privatization from the beginning, and it also started quite openly at the five-year plans we have, starting from 8th five-year plan and 9th and 10th. 10th plan very well speaks about inviting foreign patients to India under quote-unquote medical tourism, though there has been a lot of debate on the word tourism, because people who are coming for medical treatment are not in a position to go for sightseeing. But then that's the very popular term which has been adopted, and it's been there in all the media and magazines. So to open up our private care, and especially the large big corporate care, to foreign patients under medical tourism, there's been a push by the government in order to promote medical tourism, as this is seen as the second best after IT industry, as medical industry where you can earn GDP or a lot of growth, economic growth. Coming from there, from 10th plan onwards to 12th plan currently, there's been an opening of bigger hospitals, and I want to locate surrogacy within the context of medical tourism. As I said, medical tourism then comes up not so much in the bigger hospitals, because those are the hospitals where you have other medical emergencies, medical elective surgeries which are in demand, like orthopedic or cardiac, or now more and more into cancer treatment. But reproductive tourism, again a popular term, for IVF clinics and ART clinics across the country in most of the bigger cities and even smaller cities. Every other corner now have ART clinic, and they're most unregulated. Not just ART clinic for that matter, even the bigger hospitals are not regulated. So it comes with the economic growth and the GDP earner to open up the private care. Under that, I want to locate the surrogacy. So when you see surrogacy, India is seen as a surrogacy capital of the world, and that's where it becomes a major industry with the almost 2.5 billion was estimated in the year of 2012 by Confederation of Indian Industries, and that figure continues. Though in the debate in the morning about the real number of surrogates or births happening in India, there's hardly any record of it. And most of the clinics, when we go and talk to them, they say, we maintain but we don't disclose, or we don't even maintain. Because there are certain guidelines, I'll talk about it a little later, but then when you look at, there are almost 200,000 clinics across the country, and Indian Council for Medical Research actually should be registering all these clinics and hospitals, but very few, say in few hundreds, are registered under ICMR. Now, most of these IVF clinics are set up by gynecologists. There are a few doctors who have come back from UK or USA who are running these clinics. They are couples. Many a times, the gynecologist is practicing IVF, and husband is a lawyer, so he manages the IVF clinic. And then there are doctors and counselors. There are multiple players in this whole surrogacy. But then, as I said, this is again an area where the hotels, the hotel industry, the travel agents, the agencies, and there are also clinics and a large number of women who are willing to be surrogates. So there are a number of key informants whom we interacted. And as I said, it's part of medical tourism, and Ministry of Tourism has been very openly and proactively promoting medical tourism in India, and also now the ART. ICMR, there have been guidelines 2005, and there is a pending ART bill for the past few years. Now, all of a sudden, from ART bill, we have come up with a new surrogacy bill. And this is an interesting thing to understand, that all these ART clinics have been there, and the surrogacy is the last stage. And when you look at now with the booming industry, it has become like a surrogacy clinics, again set up as a different entities. But then surrogacy bill has come up, which means that there's been a lot debated around in the country and also in the world. So when you look at all these clinics, they have not been really following the guidelines, either the ICMR guidelines or the new ART bill guidelines. And in the practice at the ground, all the clinics have their own clinical standards without any regulation. Say, not all are doing any unethical practice. There are a few, of course, like three or four clinics in Delhi who have reported of many unethical means, like multiple embryo transplant, fetal reduction, hiring more than one surrogate for one couple, so which is against the guidelines. So that leads to a lot of unethical issues, which were quite fiercely debated and brought in to the notice of the media. And there are different perspectives to look at surrogacy, as it's seen as win-win situation for both the couples who want to have a child and also for the surrogate, who mostly come from the poor background and not in a position to earn a good amount of money, and they offer to be a surrogate. So when it's seen as both mutual benefit and mutual solidarity, it is seen something which should go on, and there needs some regulatory practices. But then when it's seen from the other perspective, it's seen as completely exploitative, and also women's adherence to both gendered and patriarchal norms. Now, this debate still continues, and I won't dwell into it, but there have been a lot of media reports about the risky business of surrogates, and that's where, when you see some of our studies which were published or were also quoted in terms of how some of the clinics are following these unethical guidelines and the ugly face of surrogacy. And there are different positions to take, and as an anthropologist, I mean, it's again debated whether we should take a position or not, but then definitely trying to understand, we are basically trying to understand how the policymakers look at it. And with the change of government, now the current surrogacy bill actually bans all kinds of commercial surrogacy in India. It's only open for heterosexual couples who have tried for 5 years and not having child, and it's not anymore commercial. It's a bill still pending, and it's going to come in as an act with the new government, which is a rightist government, so to call. But then looking at, there's been a pressure now on the government to roll back, because it actually challenges the interests of all the medical IVF hospitals, and even the surrogates are coming forward protesting, saying that you are taking away our livelihood. So this is still a debate, but then it has ranged from completely unregulated, purely commercial way of looking at and dealing with surrogacy and practice of surrogacy, to now banning of surrogacy for all the foreign couples, for the gay couples, for single parents, and only opening up for the heterosexual infertile couples. So I'll end here. Any questions and suggestions are welcome. Thank you.
Thank you. Thank you, Sunita. So now I will give the floor to Trudy Gerrits, who is working at the University of Amsterdam, the Department of Sociology and Anthropology. So she has worked on the Netherlands as well as on reproductive health and assisted medical reproduction in Africa. And she will speak today on surrogacy in Ghana. So Trudy, the floor is yours.
Thank you for this introduction. And also thank you for the organizers organizing such a nice conference. And for the translators doing such a great job. So as you were saying, I'm going to talk today about the situation in Ghana, a country where I think most of you never heard of, and maybe even never thought of in when thinking about IVF and surrogacy. At least this is the comment that I'm also always getting. The presentation is based on fieldwork that I did as part of this research project, an international and collaborative project organized by Viola Herbst. And I we went to of we looked at the what we call the travel of those IVF technologies to African and within African countries. We spoke about IVF and related technologies like surrogacy as biomedical technologies that get a different shape when they travel around the world. As Andrea Whittaker was saying this morning as well, surrogacy at one place is not surrogacy at another place. And that's what we looked at, what we called appropriation of those technologies. We did studies in Uganda, Mozambique, and South Africa, and I myself was doing the study in Ghana. Let me tell you a bit about the situation, the overall situation of Ghana concerning ARTs. The first IVF in Ghana was conducted in 1995, and since then, private clinics offering ARTs have become a sort of booming. In 2015, there were 14 clinics offering ARTs, and some of them also surrogacy and the use of donor materials. The first surrogate pregnancy, as far as I know, was carried out in 2005. And to date, no legislation, neither professional guidelines are in place in the country. In this year, in 2016, they are creating professional organizations, both for embryologists and for clinicians, for IVF specialists. And I assume they are going to start the regulation and maybe later on also the legislation of these issues. My fieldwork, my anthropological fieldwork, I carried out in two private clinics. So I'm not pretending that I'm talking here about the situation, the overall situation in Ghana. I'm basing my work mainly on those two clinics. And both clinics and cater for people, for Ghanaian people, middle and higher classes, but also for people coming from the neighboring countries, and interestingly also for Ghanaian people living in the diaspora in countries like in the USA, but also in England, the Netherlands, Germany, Spain, etc. So they return to Ghana for these services. I collected my data through observations and informal conversations in all spaces in the clinics, and I did interviews and also with several people in these clinics, the patients, and also I spoke with seven surrogates and a director of an intermediary agency where I will talk about that later. In this presentation, I will first give insight the way these both clinics worked with surrogates, and I will give you some insights in the views and experiences of the surrogates. And then I will have three issues that I will come back to in the conclusion. There were the two clinics organized their work with surrogacy in different ways. One of the clinics performed all of the non-medical tasks related to third-party involvement itself, such as finding, screening, informing, and contracting donors and surrogates, and also organizing the related legal procedures with functionaries. The way they did it then, they do it differently nowadays, I know, but I'm reporting what they were doing at the time I was in the field. And the other clinic, on the contrary, used the services of an intermediary agency for surrogates, while the clinic staff made the selection and screening of the donors themselves. So there was. I will first tell you a bit about the intermediary agency. And what I'm going to tell you is mainly based on what the director of that agency told me about this. I was not able to do fieldwork in this place. The director was, I will call her Jeanette. She's a Ghanaian woman who had lived for a long time in the USA, where she had undergone failed treatment, IVF herself. These were not successful. And then she returned to Ghana. And then she asked her Ghanaian gynecologist if he would be able to do surrogacy, as she knew it from the States, but it was far too expensive over there. And then he had replied to her that technically he could do it, but he doubted whether she would be able to find a surrogate in Ghana. And then she tried to find a surrogate herself, and she was successful in that. The surrogate got pregnant for her, and after that, and delivered two healthy babies. Then the doctor of the gynecologist asked her if she could also organize it for other people. And so she set up her agency. When I spoke with her, the agency had mediated, and what she was saying, she was the first in Ghana to start such an agency. At the time I spoke with her, she had mediated the births of 42 children using surrogacy and about 300 children by the use of egg and sperm donation. And the donors were university students in need of money to pay their fees, and the surrogates were all single mothers over 25 years old who wanted to improve their life conditions. And what she said, the surrogates had to sign a declaration that they were not married to avoid problems with husbands claiming that they were the fathers of the pregnancies. What she did, Janet employed recruiters in different regions of Ghana among different ethnic groups who informed women who fulfilled the criteria to become a surrogate. And when interested, they were invited to go to Accra, the capital city of Ghana, where they then got more information about the procedures and recruitments, and they were tested. They were told that they had to stay in a private house with a matron during the entire pregnancy, that they were not allowed to leave the house and not allowed to have sex during their pregnancy. They also had a sort of probation time of 3 months for them to experience if they indeed could handle living to stay in a house without leaving, etc. They were counseled about giving the child away after birth, and when pregnant, they were taken to the hospital for regular checkups by a car of the company. The carriers, they are called surrogates over there, they did not know for whom they were carrying, and while the intended recipients, as they were called, knew who were carrying their child. The babies were handed over to the recipients within 5 minutes after birth. And so there were all sorts of contract signs, etc. But Janet did not want to share with me any details about the contract, the payment, and other legal issue. And that she explicitly said it was not her concern to share it as a research privacy, but she didn't want that other agencies and other clinics, her competitors, as she called them, would copy her legal stuff and work in which she had invested a lot of time and work. So that is the one of the clinics so used this intermediary agency. The other organized all work with the surrogates herself. And in that clinic, I spoke with seven in that clinic, they were called carriers. This morning we were talking about those terms, but in this clinic they used to refer to the surrogates as carriers, and to the recipients or intended parents, they were referred to as owners. I found it quite clearly showing how the relationship between these two actors was. I want to start with the example of one of the carriers. I call her Akuba, and when I first met her, she was pregnant with twins and hospitalized at the clinic, so in the other clinic. She explained to me that the taxi driver had by chance informed her about the work of egg donors, and then she recounted to me how desperate she had felt at that moment. Her husband had passed away in a car accident when she was carrying their third child, and his family had left her without any financial support. Her job at the filling station had by no means enabled her to care for her children. So after the conversation with the taxi driver, she had visited the clinic, and where she learned that she was not qualified to be a donor. She was too old and not highly educated, but she was eligible to be a surrogate as a widow and the mother. After passing the intake interview and a series of physical examinations, she was then accepted as a surrogate. During the intake, Akuba was also told that she was not supposed to have any contact with the owners, nor would she be able to see the children she had carried after birth. As Akuba said, they let you know that the babies are not for you. They give somebody's eggs to you. You know that. The eggs are not from you. The sperm is not my husband. It's not my brood. I just carry them in my body. The other carriers I spoke with had similar stories and similar backgrounds. And they all went sort of similar, what they called intake conversation with a nurse counselor who was referred to as an auntie. And the auntie, Auntie Sylvia, as I call her, also confirmed the criteria for them becoming a surrogate, a carrier. And she was also formulating in a similar way how she synthesized the carriers about giving away the children. I'm telling them, it's not your own egg, your own ovum. It's not the sperm of your husband. You won't see the baby after the delivery. As for the motivations for the carriers to become a carrier, all women mentioned financial reason as their prime and only motivation. No, to improve the children's life, to improve their own lives, to help seriously ill relatives and or to pay debts. With regards to payment, for each delivered child, they would receive 10,000 Ghanaian cedis, that's around 3,400 euros at that time. And that is sort of 33 to 50 times 50 months' salaries, I've calculated, month salaries of the low income salary what the carriers used to earn before they became a carrier. There were some specific regulations for in cases of miscarriage. I can answer questions about that later on. They signed contracts, but they never got a copy of these contracts, and they were a bit confused about what they actually signed. So they stayed in the clinic during the entire pregnancy, and you can say that they lived in a regime of full surveillance. So their pregnant bodies were controlled, they were not allowed to leave the clinic, they had to take bed rest, they had to take medications, and they were not allowed to have any sexual contact. And they told me how different this was compared to how when they carried their own pregnancies. They shared room with women who were carrying for themselves. Part of them also is hospitalized in that particular clinic, not in the other clinic, for part or maybe for some of them even for the whole duration of the pregnancy. But they did not. They hid it for fellow roommates that they were the carriers because they were afraid that they were being disrespected. And for similar reasons, they also hid the fact that they were working as surrogates from their relatives and children and people in their community. They invented travel stories to explain their absence and also that they returned with money. They said, for example, like Akuba said, I'm working in South Africa for 9 months and I make good money and then I come back and we will have a better life. In addition to, while they came in with the only motivation was financially, but once they were in the clinic, they started to realize that the precious capacity that they had, that they could become pregnant and they could could carry and deliver children. So they came to realize that different situation compared to those who needed their services. So to their initial motivation of financial reasons only, the notions of reciprocity and altruism added. So I have something what they don't have, so we can share or we can exchange. And also I'm doing good to them because I'm carrying their children. So apparently, I'm arguing, the carriers needed this justification to counteract the secrecy and moral disapproval surrounding surrogacy in Ghana. So they were very, very strongly, all of them were saying things like, I'm just carrying. I'm a caretaker of somebody else's eggs. It's like if you're buying something for someone else, you give it to the person afterwards, you know it in advance. So they were very, very much emphasizing that it's not their own brood. That is one of my concluding remarks. They strongly emphasize their non-relatedness to the children they are carrying, which I argue that they may do mainly to show their moral goodness. They do this job because they want to be good mothers for their own children. Giving away one's own genetically related children would be like selling one's own children. And in addition, their later motivation of reciprocity and altruism facilitate them to see and present their work as morally good. So they are, in a way, essentializing genetics, and while in the realm of ARTs, they could also, as we have seen, for example, in the work of Amrita Panda, they could have gone for a different way of let me go about it. Then I want to go, for my second conclusion, I want to go back to Akuba's story. It's 1 minute.
Maybe 30 seconds.
When I returned to Akuba after 4 months after her delivery, she was proudly showing me the plots, the land that she could buy with the money. She was showing me the roadside restaurant that she bought. She was now able to carry, to take good care of her children. So she was proud in that. And she did not regret at all that she had been a carrier. But so then when talking about that tension between exploitation versus agency, but where we have talking about a number of times today, I think my case clearly shows this is it points to issues of commodification and exploitation of the carrier's body, and it's indeed a clear example of stratified reproduction. However, based on my fieldwork and on stories like Akuba's, I'm not inclined to present the Ghanaian surrogates whom I spoke with and who were selling their wombs solely as victims of the ART industry. Indeed, these reproductive jobs did provide them with financial opportunities that they would not have had otherwise. However, I do contend, and I think you will agree with me, that it's of extreme importance that their position rights and obligations are transparently and fairly settled, and that they are well taken care of financially, physically, and psychologically. And here it seems the Ghanaian situation could easily be improved upon. Thank you.
Thank you, Trudy. So maybe you could switch your place. Donc je vais maintenant donner la parole à Delphine Lens, qui termine une thèse à l'EHESS en anthropologie et qui va nous inviter à penser les différentes dimensions de la maternité à partir d'entretiens auprès de femmes porteuses en Ukraine et aux États-Unis. Donc Delphine.
C'est bon, ça fonctionne. Alors c'est parfait en plus parce que moi je vais terminer ma présentation aussi sur la question de l'agency. Donc comme ça, nos interventions vont pouvoir dialoguer. Donc moi, je me suis rendue 9 mois en Ukraine. Je vais être très brève sur le terrain. Après, vous pourrez me demander plus d'explications. Mais je suis restée 9 mois en Ukraine. Au cours de mon terrain, j'ai rencontré des personnels d'agence, du personnel d'agence, des avocats. J'ai eu l'occasion de suivre des couples également. Ensuite, je suis partie aux États-Unis, où j'ai fait la même chose. Je suis allée dans différents États. J'ai suivi également des couples français qui partaient à l'étranger pour réaliser une gestation pour autrui. Et j'analyse également la gestation pour autrui depuis le terrain français, en fait, à travers les réseaux sociaux notamment. Donc aujourd'hui, mon objectif sera un peu de déterminer un petit peu ce qui détermine la mère, ce qui fait la mère. L'objectif sera de penser un petit peu la terminologie de parenté, la terminologie qui est usitée par les femmes porteuses, et la mettre en confrontation également avec leur façon de vivre la grossesse. Ensuite, j'étudierai les métaphores qu'elles utilisent pour se décrire. À partir de ce moment-là, je vais parler effectivement de la métaphore de l'incubateur, mais qui a été très bien décrite par Elie Temann. C'est pour ça que je m'attarderai pas énormément dessus, mais après je terminerai par la métaphore et l'analogie à la Vierge Marie. Donc, voici le plan de mon intervention. Donc, je parlerai de la mère à la femme porteuse, puisque moi j'utilise le terme femme porteuse pour nommer les personnes qui portent pour autrui. Ensuite, j'analyserai le changement de statut, puisque la prise en considération de la temporalité est essentielle pour appréhender en fait le processus de GPA. Et ensuite, bon, là c'est un petit clin d'œil pour les personnes qui ont lu Carrie Stamson. Mon dernier point, donc, c'est agency through analogy, puisque généralement on dit agency through objectification, et c'est un concept qu'a développé Carrie Stamson et que je reprends, mais pour montrer la force de l'analogie. Donc, il y a plusieurs façons de nommer une femme porteuse. Alors, l'illustration ici m'a été envoyée en fait par une femme porteuse, mais on peut la retrouver n'importe où. Où je lui demandais, en fait, on communiquait sur Facebook, et je lui demandais comment elle se considérait, et elle m'envoyait cette image. Et donc, elle se considérait comme une super-héroïne. Après, vous avez plusieurs façons de nommer, et même les femmes se nomment de façon différente. Certaines vont parler de mère porteuse, de gestatrice, d'incubateur, de marraine, de fée, ou alors de super-héroïne. Alors, tous ces termes sont très importants à étudier et vraiment à approfondir. La recherche sur ces termes est vraiment importante à approfondir, puisqu'elle va marquer aussi tout un élan et puis toute une construction idéologique. Puisque lorsqu'on parle de mère porteuse ou d'incubateur, derrière, il y a quand même des références morales, parfois religieuses et politiques. Donc, ma première partie sera sur la question de la mère. Effectivement, la question qui se pose souvent, c'est de savoir qui est la mère dans le cas de la gestation pour autrui. Est-ce que c'est la personne qui a porté l'enfant, qui a donné ses ovocytes, ou qui va attendre l'enfant? Et même, on pourrait aller plus loin, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il y a une nécessité d'une mère? Par exemple, parce que la gestation pour autrui concerne également les couples homosexuels. Donc, la plupart du temps, lors de mes enquêtes, j'ai systématiquement entendu le terme que nous, en français, on traduit mère porteuse. Je l'ai retrouvé donc en russe, en ukrainien et en anglais. Alors, en anglais, c'était soit gestational, mais il y avait toujours mother et matir, toujours en russe ou en ukrainien. Ce terme apparaissait tout le temps, alors soit pour s'en distancier, ou soit pour questionner la position de la femme en tant que mère. Et certaines femmes, justement, voulaient se distancier de ce rôle de mère, comme par exemple TJ, qui me disait qu'elle n'aimait pas du tout l'utilisation du terme mère porteuse, puisque... Pour elle, ce qui fait une mère, c'est tout ce qui se passe après, c'est la parentalité, l'exercice en fait de la parentalité. Et à partir de ce moment-là, effectivement, alors, j'utilisais un peu de façon indistincte le terme mère porteuse, même gestatrice. Et à partir de ce moment, je me suis dit, effectivement, il y a des personnes qui ne se considèrent absolument pas comme mère, et justement qui rejettent complètement ce terme, même si on peut le comprendre. Et donc, j'ai décidé d'utiliser le terme « femme porteuse ». Donc, c'est dans la logique de division par sexe qui a été développée par Mauss. Pour deux raisons. Donc, là, c'est ce qu'on retrouvait dans les propos d'Irène Théry sur la division par sexe. Donc, parler de femme, ça permet d'imaginer une femme qui n'est pas réductible à une mère, mais à d'autres choses. C'est une femme qui peut être plusieurs statuts. Et également parce que ça permet également de prendre en considération le changement des statuts ontologiques. Puisque, une femme va pouvoir le statut de la femme va pouvoir changer au fur et à mesure de la procédure de GPA. Et d'où l'importance donc de prendre aussi en considération l'analyse en termes de temporalité. Et c'est en cela que là, je vais vous donner deux exemples. Vous avez l'exemple du contrat et l'exemple d'une femme qui s'appelle Taylor, qui pensait qu'elle serait comme une mère, mais qui, en réalité, l'expérience lui a démontré l'inverse. Donc là, vous avez Nicole, par exemple, qui me disait, c'est super, puisque j'ai travaillé avec un couple d'étrangers, et puis c'était plus facile, parce que comme ça, il ne pourra pas me dire « Salut, tu as été ma mère ». L'importance ici, c'est le « tu as été ma mère », puisque quand je lui ai posé la question de savoir pourquoi elle avait utilisé ça, elle me disait « bah oui, puisque pendant un temps, moi, dans le contrat, j'étais marquée mère de l'enfant qui allait venir au monde, puisqu'elle portait pour un couple gay, et il était plus facile d'avoir le nom d'une femme sur le certificat de naissance. Et donc, c'était par rapport au contrat qu'elle s'est considérée comme une mère. Mais au contrat au certificat de naissance, mais après, ils ont fait un deuxième certificat, et elle a été effacée de l'état civil. Et également, tout en étant une mère au sens, on va dire, contractuel ou juridique, elle se considérait également comme autre chose, comme à un moment donné, elle me disait « je suis like an oven ». Bon, alors pour nous, ça peut paraître un peu abrupt comme ça, mais après, c'est une expression qui est utilisée dans le milieu quand même anglo-saxon pour parler de maternité en général. Donc c'est pas quelque chose... Faut pas regarder avec nos yeux un peu ethnocentrés. Et il y avait une autre femme qui me disait, bon, alors moi j'ai pris conscience que je serais la mère pendant les 9 mois, mais ensuite elle exprime bien que en fait elle le souhaitait. Et là encore, je renvoie aux travaux de Mauss et d'Irène Théry, puisque on parle de l'attente en fait. Lorsqu'elle disait, moi je vais être la mère, c'était parce que elle se disait, je vais me comporter comme on attend qu'une mère se comporte, c'est-à-dire je vais pas boire d'alcool ou des choses comme ça. Seulement, dans son expérience. Elle se considérait davantage comme une tante. Elle dit, aunt. Après, elle dit, je ne sais pas trop en français comment ça peut se traduire vraiment. Mais, donc, elle était toujours quand même dans la parenté. Elle voulait inclure les enfants GPA ou les enfants qu'elle a portés dans sa parenté, mais pas dans un rôle maternel, mais plutôt de tante. D'accord. Donc, comme d'ailleurs, je vous renvoie là pour la peine aux travaux d'Henrique Porqueres sur la parenté en plus. Dans son dernier ouvrage, il en parle également. Je vais finir sur l'analogie justement Alors là, c'est, alors je fais une série de photos en fait pour sur les slogans en fait des femmes porteuses. Donc là, c'est une photo que j'ai faite. Et donc là, c'est une photo lors d'une manifestation avec Jésus, avec deux pères et une mère porteuse. Alors pour ça, aussi pour dire que c'est important d'étudier la terminologie, mais également étudier un petit peu comment les femmes se représentent. C'est essentiel lorsqu'on appréhende le processus de GPA. Là, je prends l'exemple de l'objectification et surtout de l'analogie, puisqu'elle montre comment les femmes font preuve d'agency, comment également elles peuvent légitimer leur incorporation ou leur implication dans un processus de GPA en fonction en fait de ce qui leur est donné à voir ou à penser. Et là, par exemple, là où j'ai donné deux exemples, donc Paola qui dit « je suis un incubateur », vous remarquerez par exemple que dans cet exemple est très intéressant puisqu'elle dit « je suis un incubateur, mais un environnement accueillant, douillet ». Et donc vous avez la traduction également en bas pour ceux qui parlent russe, puisqu'elle parle en russe. Donc c'est pour montrer que ça n'a rien à voir avec le côté, l'incubateur n'a rien à voir avec le côté froid qu'on peut imaginer. Là-dessus, effectivement, le concept développé pour parler de ça, de body map, d'Elie Temann est très heuristique puisqu'il permet d'imaginer comment les femmes se représentent la maternité et également comment elles vont couper en fait, leur corps, diviser leur corps pour donner du sens à telle ou telle fonction. Donc être un incubateur, pour elles, c'est ne pas être une personne froide sans sentiments ou quoi que ce soit. La relation, ça leur permet de gérer leur relation et de gérer la relation avec le fœtus qu'elle porte. D'ailleurs, certaines femmes vont refuser, par exemple, d'allaiter. Et ça, c'est la limite, c'est vraiment la dernière limite, c'est l'allaitement. C'est-à-dire, je veux bien pomper mon lait ou ce genre de choses, mais allaiter, je ne veux pas, puisque ça crée trop de relations. Donc, on voit qu'elles vont tout réaménager en fonction de ce qu'elles ont envie de mettre aussi dans le corps. Je terminerai donc par la Vierge Marie, puisque c'est une analogie que j'ai retrouvée absolument dans mes deux terrains de recherche, que ce soit en Ukraine comme aux États-Unis. Lorsque j'étais aux États-Unis, j'ai eu l'occasion de filmer des femmes porteuses et j'ai fait un documentaire. Donc là, je vous montrerai quand même l'extrait d'une femme porteuse qui parle de la Vierge Marie. Mais c'est quelque chose que j'ai retrouvé chez les pasteurs également et dans les églises orthodoxes. Du côté est de l'Ukraine, où ils utilisaient aussi ça. Et c'était en fait un processus de légitimation de leur intégration dans le processus de GPA. Et ça nous invite à dépasser l'opposition, en fait, on va dire Marx-Mauss, sur la commercialisation contre le don. En fait, et c'est pour ça que cette analogie, d'ailleurs, on est en train d'écrire un article avec un collègue dessus, puisqu'elle est très forte, elle est très parlante, et elle permet aussi d'appréhender la question de la commercialisation des corps. Et donc, voilà, alors ça, c'est Gail, elle a été femme porteuse une fois. Ensuite, elle est aussi directrice d'une agence, maintenant. Et elle était donc dans Waco, elle est baptiste.
I am a Christian and wanted to make sure that it wasn't something that I shouldn't do for somebody else. And so we actually went to the church and talked with our pastor about me being a surrogate mother to make sure there wasn't any reason in the Bible why I shouldn't be. And our pastor instructed us that Mary was in fact a surrogate mother because she carried Jesus. And obviously Jesus was God's child. So I really felt confident after talking with him that everything would be fine and then there wasn't anything wrong with me doing that scripturally from a biblical standpoint.
Voilà, je termine là-dessus.